Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre chaîne de podcast « Une alchimie de l'éveil ». Je suis Keragir et aujourd'hui, nous allons nous poser cette question. Est-ce que créer sa réalité est un parcours spirituel ou une embûche? Nous avons dédié 5 épisodes à cette masterclass gratuite sur créer sa réalité. Nous vous avons donné pléthore d'informations, mais les échanges avec la communauté, avec les amis, avec même de grands méditants ont été très riches. Car qu'y a-t-il derrière cette capacité, cet effort, cette volonté que l'on peut avoir à influencer notre réalité? Y a-t-il un parcours spirituel? Ou au contraire, un éloignement de notre évolution spirituelle? Ce podcast vous est présenté par Unity, la communauté francophone pour grandir en conscience avec les plus grands experts internationaux du développement personnel, de l'éveil de conscience et de la spiritualité. Unity, des formations e-learning pour grandir en conscience. Et si jamais vous avez envie d'interagir avec nous, de nous donner votre opinion, réagir au contenu de ces podcasts, voire même nous suggérer des épisodes pour pour des épisodes futurs, n'hésitez pas à nous écrire à français sans CDI sur le C @unity.one. Et si au passage vous ne voulez pas rater un seul épisode de cette chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche des notifications et comme ça vous serez sûr d'être notifié à chaque fois que nous publions un nouvel épisode religieusement tous les dimanches. Et nous recevons pas mal de messages d'entre vous qui nous remercient vraiment très enthousiastes, ça nous fait vraiment très au chaud, qui nous remercient pour le travail que nous faisons, pour la qualité de contenu que nous divulguons et qui nous disent « Que peut-on faire pour vous aider ?» Et là, vous nous posez la question et il y a une chose d'emblée sûre que vous pouvez faire pour nous aider, c'est de vous mettre en mouvement avec nous pour faire pour permettre au plus grand nombre, je trouve pas mes mots, d'accéder à ces contenus. Ce que nous voulons, c'est toucher un maximum de monde. Et donc, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos amis. Il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui nous écrivent et qui remercient la personne qui leur a fait découvrir cette chaîne de podcast. Donc, la première chose, vous pouvez en parler autour de vous avec l'enthousiasme qui pourrait vous susciter les découvertes que vous faites. Si vous aimez ce que nous faisons, faites que d'autres gens le découvrent autour de vous. Ça, ce serait un énorme service que vous pourriez nous rendre. Et l'autre, tout simplement, mettez une note à notre podcast sur Apple Podcast ou sur d'autres plateformes sur lesquelles vous écoutez ce podcast. Plus ce podcast aura d'étoiles et de commentaires positifs, plus il va être promu par les plateformes elles-mêmes, ce qui est aussi une magnifique façon de toucher un très grand nombre, puisque la plateforme se dit, s'il y a des gens qui notent, s'il y a des gens qui sont contents, s'il y a une très bonne note dans ce podcast, ça veut dire qu'il mérite d'être écouté, on va le présenter à toutes ces personnes qui chercheraient des thématiques rattachées à ce qui est raconté dedans. Donc, si vous voulez nous accompagner dans cette aventure pour toucher le plus grand monde et faire votre part du colibri avec nous dans la transformation du niveau de conscience de notre humanité, nous sommes ensemble dans cette aventure. Merci beaucoup. Et maintenant, allons droit au but de la thématique qui nous intéresse. Quand créer sa propre réalité devient un parcours spirituel, ou pas. Contextualisons. Si vous avez écouté les différents épisodes de la série destinée à créer sa réalité, c'est-à-dire les 5 derniers épisodes, ceux qui précèdent celui-ci, l'une des choses sur laquelle nous avons insisté, c'était que ce parcours était un parcours de dénuement, un chemin de dénuement. Parce que, très rapidement, on prend conscience que l'on attire des choses à soi, consciemment, mais aussi inconsciemment. Dans ces 5 derniers épisodes, vous avez appris plein de façons différentes ou de méthodes pour influencer l'approche consciente, c'est-à-dire quelque chose que vous pouvez faire vous, en tout état de cause, en toute connaissance de cause, pour que vous puissiez attirer à vous des situations ou des choses désirables. Par contre, à côté de ça, à côté de ce processus conscient, on va finir par se rendre compte, plus on vieillit, plus ça devient évident, que l'on vit des cycles répétitifs. C'est-à-dire des situations qui se répètent avec des personnes différentes, dans des contextes différents, des moments qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres, et pourtant, il est force de constater que la situation, avec des acteurs différents, dans un lieu différent, reste exactement la même. C'est ce que nous appelons des cycles répétitifs. C'est là, quand vous prenez conscience de ça, que vous devez, ou que la vie vous invite à vous attaquer aux influences inconscientes. Il y a probablement, dans votre inconscient, dans votre subconscient, devrais-je dire, un programme qui tourne en pilote auto et qui vient influencer vos comportements, votre façon de réfléchir, votre façon de penser, votre façon de voir le monde et votre façon d'être avec les gens et dans ce monde-là. Ce programme subconscient agit, comme dirait l'autre, à l'insu de votre plein gré. Dit autrement, quand le moment vient de s'attaquer aux influences inconscientes, vous rentrez dans un processus de conscientisation. Donc, c'est un chemin de conscience. Donc, on peut dire que si vous voulez commencer à manifester et vous éviter au maximum toutes les embûches qui viennent influencées par vos programmes subconscients, on peut dire que créer sa réalité devient un chemin de conscience. Mais ça, ce n'est que la première étape. Dès le moment où vous vous engagez sur ce chemin, il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir des révélations qui vont amener à des ajustements et des corrections qui se feront d'un côté sur votre monde extérieur, votre vie, votre écosystème de vie, votre communauté, c'est-à-dire tout ce qui est à l'extérieur de vous, et aussi sur tout ce qui est de l'ordre du monde intérieur. Vous allez faire des corrections et des ajustements de posture, vous allez travailler sur vos croyances et aussi sur votre rapport à la vie. Et cette fois-ci, ce rapport à la vie, il est aussi intérieur, le rapport à votre vie intérieure et votre rapport à la vie extérieure. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de regarder ce qui se passe à l'extérieur, mais on est en train de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous qui interagit avec l'extérieur. Et là, au fur et à mesure que vous faites ces prises de conscience, ces révélations, vous allez enlever ce que l'on appelle les couches de l'oignon. Et une après l'autre, vous vous rapprochez du cœur. Mais qu'y a-t-il dans ce cœur-là? Il y a la version la plus élevée de votre être. Ou ce que certains pourraient appeler l'essence pure de votre être. Ou ce que l'on pourrait appeler aussi votre nature spirituelle. CQFD, étape suivante. Sans le savoir, en travaillant sur votre capacité à manifester, à créer votre réalité, vous êtes en train d'entamer un parcours spirituel. Et oui, on pourrait dire que manifester l'abondance sans les embûches des influences inconscientes est un parcours spirituel, par la force des choses, même si on n'imaginait même pas le faire, même si on se disait complètement athée. En fin de compte, rien qu'en faisant ça, vous êtes déjà dans un parcours spirituel. D'ailleurs, soit-il dit en passant que le simple fait de se poser la question « pourquoi ?» et de se questionner sur le sens de la vie est aussi un parcours spirituel. Et en vous racontant ça, il y a une petite intention en moi et vous comprendrez rapidement pourquoi quand vous découvrirez les épisodes qui suivront dans cette chaîne de podcast. Et avec ce teasing, je m'arrête là. Parce que, ok, on a fait la constatation. Créer sa réalité serait un parcours spirituel. Mais, eh oui, hélas, il y a un mais. Plus vous avancez sur ce chemin, plus vous prenez conscience que perfection et abondance sont un registre qui relève de l'être et pas d'une condition matérielle. C'est alors que vous rendez compte que tout est déjà là depuis toujours. Et il est possible que ceci parle davantage aux personnes les plus âgées qui nous écoutent, car l'expérience et les années vous rapprochent de cette conclusion. On se rend compte que l'on passe la première partie de notre vie à parfaire la matière, on pourrait dire. On fait pour prouver sa valeur. Ensuite, accumuler de la matière. Alors on fait pour avoir un patrimoine. Et ensuite, on passe sa vie à sécuriser notre parcours dans la matière. On fait pour ne pas manquer. Tout ça, ce sont des conditionnements qui viennent de la façon dont la société nous a éduqués et nous a préparés à faire face à notre vie. C'est une approche extrêmement matérielle qui, à travers les siècles, a été extrêmement influencée par la peur du manque. Mais un jour, surtout dans une société comme la société actuelle, occidentale, dans laquelle nous vivons, une société, on peut le dire, d'abondance. Un jour, vous prenez conscience que l'essentiel n'est pas dans la matière. Et c'est souvent dans les moments clés de notre vie que ceci devient une évidence. On n'a pas besoin d'avoir fait les trois quarts de sa vie, voire plus, d'être à la retraite, de se poser, de faire le bilan de sa vie pour arriver à ses conclusions. C'est souvent dans les moments clés de la vie que l'on prend conscience que l'essentiel n'est pas dans la matière. Lors d'une naissance, lors d'un décès, souvent aussi lors d'un mariage, on prend conscience que l'amour, l'amitié, sont des choses absolument essentielles qui réellement sont l'abondance de notre vie. Mais il y a aussi une notion de contribution liée à la notion d'épanouissement. L'épanouissement peut venir sans contribution, mais très rapidement, l'épanouissement pleinement satisfait s'ouvre par lui-même à la conscience de la contribution, c'est-à-dire de l'empreinte qu'on le laisse. À quoi aura servi la vie que j'ai vécue? Et ceci nous mène inévitablement à prendre conscience que la véritable abondance est dans un cheminement de croissance intérieure, dans un éveil du potentiel humain et spirituel qui est en nous. Et tout ceci rassemblé nous amène à un dernier trésor, qui est celui des souvenirs. C'est cet album photo que l'on garde tous en nous. Et que, à certains moments clés de notre vie, on va venir ouvrir pour faire une rétrospective. Et on va regarder les photos qui y sont à l'intérieur. Et on va se dire, est-ce que ça a réellement valu la peine de les vivre? Est-ce que l'album photo est suffisamment épais? Est-ce que je me suis donné le droit de me faire plaisir de vivre tous ces grands moments inoubliables? Car une chose est sûre, dans ce parcours que l'on invite à faire dans la matière, vous prenez conscience que le jour où vous ne partirez avec rien de tout ça. Par contre, jusqu'à la dernière seconde de votre vie, jusqu'au dernier souffle, voire même les étapes ultérieures de votre expérience de mort imminente, si l'on regarde ce que les études sur la question nous amènent, vous amènent toutes à prendre conscience que ce qui demeure, c'est l'amour, l'amitié, le sens de l'épanouissement dans la contribution, le lien à sa croissance intérieure, et tout ça étayé du film de sa vie qui n'est d'autre ni plus ni moins qu'un parcours des meilleurs moments, du best-of, des souvenirs que nous gardons avec nous. Tout ça part avec nous. Alors, à divers moments de notre vie, que ce sont ces moments clés au moment du départ de quelqu'un de cher, au moment d'une naissance, à des moments spécifiques, une rupture amoureuse aussi pour nous amener ça, ou la découverte d'un amour. L'amour, on a tous connu ce moment où le cœur, on est amoureux, qu'on n'en peut plus. Et soudainement, on se fout de tout parce qu'on a l'amour. Et là, on prend conscience à tous ces moments-là que la conscience, que l'essentiel n'est pas dans la matière. Et ce n'est qu'à ces moments très précis, très ponctuels, que l'on prend conscience que le bonheur est simple, alors qu'on nous a fait croire qu'il était complexe et déterminé par notre abondance matérielle. Et moi, j'ai une petite histoire que je voudrais partager avec vous, pourquoi cette question me tient particulièrement à cœur. Et c'est qu'en 2019, les fidèles de cette chaîne, vous savez que j'ai fait un gros burn-out accompagné d'une expérience de mort imminente. Et une fois que tout ceci s'est passé, dans cette expérience, quand je suis revenu, j'étais sur le lit d'hôpital. Et sur ce lit d'hôpital, je me suis posé une question. C'est la première question que je me pose après tout ça. C'est quoi le bonheur ? Et comme réponse à cette question, alors moi je suis truffé de douleur, je suis sur le lit d'hôpital, je peux pas mettre un pied devant l'autre. Bref, je n'ai plus de résistance en moi. Je n'ai même pas d'espace pour réfléchir. Ce qui est là est tout moi, toute ma réalité, tout ce que je suis. Et quand je me pose cette question, c'est quoi le bonheur? Ma définition du bonheur à ce moment-là, c'était, ça vous fera rire je pense, mon canapé Ikea, un canapé Ektorp sur lequel j'adorais me coucher. Je me suis vu coucher sur mon canapé Ikea avec un plaid rose et vert que j'avais piqué à la mamie de ma compagne avec lequel je me couvrais. J'adorais ça. Mon petit chat qui venait se poser sur moi. Mon livre du moment. Ouïouïouïouï, vous me chantez déjà ronronner avec mon chat. Et autour de moi, la connaissance que j'avais tous les gens que j'aimais. Ça se réduisait à ça. Pourtant, j'avais fait un burn-out sévère dû au fait que je m'étais épuisé à n'en plus pouvoir, à travailler, à me perdre dans cette quête matérielle et matérialiste que l'on m'avait dit qui était le sens de ma vie. Et quand tout ceci explose en mille morceaux, que je me pose réellement la question « c'est quoi le bonheur ?», je constate que le bonheur est simple, que tout est déjà là, depuis toujours. Simple, accessible, à ma portée, à tout moment. Et oui, car c'est à ce moment-là que je prends conscience que cette course effrénée dans la matière m'a éloigné de l'essentiel. C'est à ces moments spécifiques de vie, des ruptures, des croisements de chemin un peu inespérés, parfois brutaux, que l'on fait un bilan et que l'on rend compte que nous, nous sommes éloignés de l'essentiel. Et l'essentiel n'est jamais matériel. Alors ne me faites pas dire ce que je ne suis pas en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que dans ce monde de matière, la matière est dispensable. On en a besoin. Et on peut longuement parler aussi de déséquilibre et des équilibres qui sont nécessaires de cultiver pour être en paix dans un monde de matière. Mais ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui. On pourrait en parler en long, en large et en travers. Peut-être que je suis en train de m'inspirer moi-même pour un épisode futur. Et c'est ainsi qu'une fois que je fais toute cette démonstration, je ne peux que me poser cette question. Si je tombe dans le piège de la matière et donc je m'éloigne de l'essentiel, quand je manifeste et que je crée ma réalité, est-ce que je ne suis pas en train de m'amener exactement au même endroit? Parce qu'en fin de compte, créer ma réalité présuppose, pour beaucoup de personnes, ou pour une grande majorité de personnes, une réalité matérielle, une manifestation matérielle, une abondance matérielle. Mais pas que, bien évidemment. Je ne suis pas en train de vous ranger dans un petit groupuscule de matérialistes. On peut manifester beaucoup, 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 beaucoup de choses, pas que la matière. Mais manifester et créer sa réalité ne nous mènerait-il pas à nous éloigner de l'essentiel? Et c'est là que se soulèvent deux théories qui naissent de, très nombreux échanges et réflexions qu'ont suscité cette masterclass sur créer sa réalité. La première des théories touche au parcours d'éveil. Manifester dans la matière serait comme devenir une fois de plus esclave de la matière en pensant qu'avoir prévaut sur être. C'est là, si vous voulez, l'une des grandes critiques que j'émets auprès du courant du livre Le Secret, le film documentaire Le Secret, etc., etc., qui base ce cheminement de capacité de création et de manifestation à des choses extrêmement matérielles. Je veux avoir une voiture de luxe, je veux avoir une grande maison, une piscine à débordement, etc., etc. Donc, si nous sommes en train de manifester, de créer notre réalité pour devenir une fois de plus esclaves de la matière, en pensant qu'avoir prévaut sur être, nous pourrions dire que manifester pour réaliser ses rêves dans la matière ou pour obtenir des récompenses matérielles serait comme faire une halte ralentissant notre parcours spirituel. Et j'entends par parcours spirituel tout ce qui nous permet de nous approcher de notre essence, donc de l'essentiel. Tout ceci focalise notre attention sur des objectifs matériels, souhaités, mais nous tombons alors dans le piège de l'expérience et de la possession satisfaite. Et c'est un lieu entre deux eaux où le plaisir d'avoir et de faire consomme, et là c'est hyper important, le plaisir d'avoir et de faire vient consommer l'énergie et l'intention nécessaires à poursuivre notre chemin spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme une sorte de divertissement. On a du temps à disposition et ce temps-là, on va l'utiliser en consommant de l'énergie. Cette énergie ira où nous posons notre intention. Si nous posons notre intention dans la volonté de maximiser nos expériences et nos possessions satisfaites, nous nous détournons du chemin essentiel et spirituel, à savoir celui qui mène à l'expérience dénudée du tout déjà manifesté en nous. Car vous prenez, quel que soit le parcours spirituel que vous choisissez, ils aboutissent tous à la même conclusion, tout est déjà là depuis le début. Et ça, c'est la première théorie, celle du parcours d'éveil. Et je ne me permets que de soulever la question. Est-ce vraiment une halte ralentissant? Mais maintenant, permettez-moi de vous parler de la deuxième théorie, celle de la vision bouddhiste. Et là, préparez-vous parce qu'on va se faire encore plus de nœuds au cerveau. D'après les bouddhistes, donc je sais que ces derniers temps, j'en parle beaucoup parce que j'ai beaucoup d'échanges avec mes amis bouddhistes dernièrement, parce qu'il y a un espace philosophique que je trouve extrêmement inspirant et stimulant dans les thématiques que nous sommes en train de travailler actuellement. Mais comme vous le savez bien, dans cette chaîne de podcast, je m'inscris sur une approche spirituelle laïque, donc je vais pouvoir m'inspirer autant de mes amis bouddhistes que catholiques, que soufistes, que autres, etc., etc. Donc, je ferme la parenthèse, aujourd'hui encore une fois parler de bouddhistes. Et je parle avec un grand méditant bouddhiste, Stéphane Faure, un très bon ami à moi, et qui m'explique que souvent l'approche bouddhiste, nous sommes les créateurs de notre réalité. Alors forcément, dans toute cette série, je vous parle beaucoup des bouddhistes parce que c'est une vision du monde qui est elle-même étayée par la science aujourd'hui. Donc nous sommes en effet créateurs de notre réalité et pour les bouddhistes, tout est illusion. Chose que aussi la physique quantique, entre autres, nous amènerait à conclure que tout est illusion, création de notre quelque chose, j'allais dire de notre mental. Mais nous créons notre, si je cite un film, notre matrice. Ainsi, pour les bouddhistes, le but du parcours, c'est se sortir de l'illusion. Hein, si on parle du film Matrix, on vit dans une matrice et cette matrice est illusion complète. Il y a un monde réel à l'extérieur de cette matrice-là qui est le monde duquel nous venons. Et donc, le but du parcours, c'est de sortir de l'illusion pour se libérer de la souffrance et expérimenter ce que les bouddhistes appellent la bodhicitta. C'est l'expérience de la nature pure de l'esprit. Et quand vous arrivez à rester dans cet état-là d'expérience permanente, vous devenez ce qu'on appelle un être éveillé. Ceci étant dit, il est possible d'expérimenter la nature de l'esprit à des moments ponctuels. C'est des expériences que moi j'appelle de lumière, eux ils l'appellent pas comme ça, mais des expériences où soudainement vous êtes dans cet espace, vous êtes en contact avec la nature de l'esprit. Des êtres éveillés, il n'y en a pas beaucoup. Mais des personnes qui sont sur un parcours spirituel, qui font des expériences de la nature de l'esprit, il y en a pléthore. Et Dieu merci, car c'est ce qui nous motive pour continuer sur ce chemin-là. Ainsi, les bouddhistes nous disent que manifester, c'est alimenter le piège de l'illusion. En fait, vous vivez dans un monde d'illusions, et quand vous manifestez, vous ne faites qu'apporter de nouvelles illusions. Et ce n'est que se créer de nouvelles embûches qui vont vous bloquer ou vous freiner, ou vous ralentir dans la matrice illusoire, parce qu'il vous enferme dedans. En fait, c'est l'illusion au service de l'illusion. Donc oui, vous pouvez créer votre réalité. Ça n'empêche que cette réalité reste illusoire de toute façon. Donc, vous restez enfermé dans un cycle infernal que appelle le samsara. Et ce cycle infernal, pourquoi l'est-il? Parce que c'est aussi tomber dans un piège qui est celui de la quête du plaisir. Le plaisir de manifester, d'avoir ce que l'on veut, d'expérimenter ce que l'on veut. Le plaisir qui mène inévitablement au manque et par conséquent à la souffrance. Et donc, nous sommes là dans un piège qui fait que, quand nous manifestons, nous contribuons volontairement à nous mettre des bâtons dans les roues. Dit autrement, pour eux, manifester, c'est inutile. Et pourtant, j'adore ces échanges avec mes amis bouddhistes. Et moi, je dis, ok, j'entends, c'est génial, je vois ce que tu veux dire, je trouve ça hyper intéressant. Mais maintenant, explique-moi, pourquoi, quand j'étais avec Chogyal Rinpoche au Népal, il nous a donné sa formule pour manifester. Donc, si un Rinpoche, il manifeste, pourquoi tu me fais... Il y a un truc qui colle pas. Et là, mon ami bouddhiste me fait un énorme sourire d'oreille à oreille et il me dit « Ah, c'est là l'un des grands et nombreux paradoxes du bouddhisme. » Et à la fin, je dis « Bon, t'es gentil Stéphane, mais allons droit au but. » C'est ou l'un ou l'autre. Mais les paradoxes, moi, ils ont une tonalité d'antagonisme, voire même d'incohérence. J'allais dire, il faut un peu de suite dans les idées, alors, mes amis bouddhistes. Et là, il rigole, il me dit, écoute, Icar, la première chose que moi je conseille, et donc je vous retransmets ces paroles, la première chose qu'il nous conseille, c'est d'arrêter les nœuds au cerveau. Et je peux vous dire que ça, je l'ai entendu des milliards de fois, notamment de tous les maîtres chinois avec lesquels j'ai eu le privilège de travailler, maîtres chinois taoïstes, en très grande partie taoïstes, sur mon parcours de découverte du Qigong taoïste, mais aussi sur des parcours de découverte de la méditation, etc., etc. Donc, comme vous le savez, encore une fois, les filets de cette chaîne, la voie orientale est une voie que moi j'ai choisie pour parfaire mes connaissances sur ces chemins d'éveil du potentiel et spirituel. Et les maîtres chinois, c'est un grand classique chez eux, parce que pour les orientaux, nous les orientaux, on est complètement fermés dans notre tête, fermés et enfermés dans notre tête. Et on adore se faire des nœuds au cerveau. On adore apprendre, étudier, décortiquer, analyser, faire et refaire. Bref, c'est un monumental nœud gordien qui s'enferme dans notre tête. Et eux nous disent, pratique. Tais-toi et pratique. Arrête de réfléchir, pratique. Arrête d'écouter tes pensées, écoute ton corps, écoute ton énergie, écoute ce qui se passe en toi. Arrête de te faire des nœuds au cerveau. D'ailleurs, je fais une autre parenthèse dans les parenthèses, c'est d'ailleurs pour ça que l'approche orientale pédagogique ne fait pas mouche en Occident. Nous, on a besoin de se remplir le cerveau. Alors que le chinois, il va arriver, il va te donner un exercice, mais d'un basique que tu meurs, il dit voilà, tu as tout ce que tu as besoin de savoir. Et toi, t'es là, non, mais attends, il y en a pas assez, mais donne-moi, c'est quoi les concentrations? C'est quoi les, est-ce qu'il y a des approches particulières? Est-ce qu'il y a des gestes que je dois faire? Est-ce qu'il y a des respirations dans des rythmes, dans des cides et ça? Et j'en sais rien. Donc, moi, les techniques secrètes, hein. On est tous férus de secrets de maître. Et le mec, il te dit, non, mais tu as tout, fais-le, et voilà. Et s'il se passe quelque chose, tu m'appelles. Et là, nous, occidentales, on est là, tu dis, mais regarde-moi le mec. Je viens de le payer 500 balles pour faire un stage. Le mec, il arrive, il me dit de faire 3 respirations et qu'il se passe quelque chose que je l'appelle. Non mais, on n'est pas férus de ça. Pourtant, c'est la meilleure approche pédagogique qu'il puisse avoir parce qu'elle te force à sortir de ta tête puisque n'a aucun élément dans ta tête auquel t'accrocher. Eh bien, mon ami bouddhiste me dit exactement la même chose. Il dit, arrête de te faire des nœuds au cerveau. Parce que, avant d'atteindre la nature éveillée de l'esprit, t'as un sacré bout de chemin à parcourir. Il me dit, nous les bouddhistes, c'est qu'il y a peut-être plusieurs milliers ou dizaines de milliers ou de centaines de milliers de vies que nous avons eues sur Terre pour essayer d'y arriver. Donc, ne t'inquiète pas, avant d'atteindre, il te reste un bout de chemin. Et ce chemin, il est semé d'embûches et de difficultés. Alors, si tu crées ta réalité et tu œuvres pour te faciliter le parcours, tout en restant consciemment sur celui-ci, et il insistait sur ça, tout en restant consciemment sur ce parcours d'évolution, Alors, tu fais de ce potentiel à manifester un outil au service d'une cause supérieure. Et cette cause supérieure n'est ni plus ni moins que l'expérience de la nature de l'esprit. Dit autrement, tant que vous ne réduisez pas votre capacité à manifester à un simple consumérisme, vous êtes encore en lice pour devenir un être éveillé. Ouf ! On avait eu chaud. Chers amis, merci de nous avoir accompagnés dans ce nouvel épisode bonus sur Créer sa réalité. On dit que les Occidentaux sont férus de nœuds au cerveau. Je pense que ça en est fait de bons nœuds au cerveau dans cet épisode-là, mais qui, je pense, sont nécessaires. Car une chose, c'est manifester et créer sa propre réalité. Mais encore faut-il que l'on sache pourquoi on manifeste et on crée sa réalité. Quel est le sens, quelle est la raison d'être de cette volonté que nous avons d'influencer notre vie et ce que nous vivons ? Quel est le sens et la raison d'être de l'éveil de ce potentiel ? Quel est le sens et la raison d'être de chaque geste que nous allons faire ? Dès le moment où vous vous posez cette question, vous rentrez dans un parcours spirituel. Et s'impose alors une autre question. Suis-je en train de m'aider sur ce parcours ou suis-je en train de me créer de nouvelles embûches ? Et comme conclusion, arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau. Je suis Kéragir. Et ceci est votre chaîne de podcast, Une alchimie de l'éveil. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour découvrir nos épisodes futurs et à nous laisser un petit commentaire et quelques étoiles dans vos plateformes de podcast favorites.